Chapitre 9. Thomas Hobbes. Dépasser ou être dépassé. Et abandonner la course, c'est mourir. Thomas Hobbes est fameux pour être l'auteur de la formule « L'homme est un loup pour l'homme ». C'est un peu triste puisqu'il n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'un adage latin dont la plus ancienne variation se trouve dans une comédie de Plaute, poète comique du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et non seulement cette formule devenue proverbiale avait été reprise par bien d'autres avant Hobbes, mais lui-même n'a fait que la mentionner une fois au détour d'une phrase sans lui donner une importance particulière. Le passage se trouve dans l'épître dédicatoire du De Cive, je cite, « Et certainement, il est également vrai qu'un homme est un dieu à un autre homme et qu'un homme est aussi un loup à un autre homme. La première assertion est vraie si on regarde les rapports des citoyens entre eux, la seconde l'est pour les cités entre elles. » Ainsi, Hobbes n'applique ici la formule qu'au rapport des cités, ou plus largement des États, entre elles, pas aux individus. Néanmoins, cette formule semblait si bien résumer la vision que le philosophe se faisait de la nature humaine que cette petite phrase lui est restée associée. Il est intéressant de lire le passage de Plaute dont elle provient, car le sens n'en est pas tout à fait celui auquel on pourrait s'attendre. Le poète la met dans la bouche d'un marchand refusant de prêter de l'argent à un inconnu, faisant observer que « l'homme est un loup, non un homme, à l'homme qui ne le connaît pas encore ». Ainsi, contrairement à l'interprétation commune, il ne s'agit pas de dire que chacun est prêt à égorger son semblable, mais seulement que nous nous en méfions comme nous nous méfierions d'un loup tant qu'il nous est inconnu. Et précisément, la méfiance à l'égard d'autrui et la crainte de la violence qu'il pourrait exercer contre nous constituent un thème central chez Hobbes. Selon lui, en l'absence d'État qui nous protège mutuellement, chacun a tout à redouter des autres, puisque, livré à ses propres forces, même le plus fort n'est pas à l'abri d'être tué par le plus faible. La peur, et particulièrement la peur d'une mort violente, occupe une place prépondérante dans la pensée de Hobbes. Il faut dire que nous avons affaire à un Anglais du XVIIe siècle, et il ne faisait pas bon vivre en ce XVIIe siècle en Angleterre, où des troubles politiques intenses mèneront notamment à trois guerres civiles entre 1642 et 1651. Lorsque Hobbes parle de situations où l'État ne garantit plus la sécurité des individus et où chacun peut craindre la violence de tout autre, ce ne sont donc pas de pures abstractions. La guerre civile, dont il a été témoin et dans laquelle il craindra toujours que l'Angleterre retombe, en est le plus tragique exemple. D'où peut-être un certain pessimisme quant à la nature humaine. Ce sera un reproche souvent porté contre Hobbes que d'être surtout marqué par des circonstances historiques particulières. Par exemple, Diderot, pourtant élogieux à l'égard de Hobbes par ailleurs, écrivait assez durement dans l'article « Hobbisme » de son encyclopédie « Le Parlement était divisé d'avec la cour et le feu de la guerre civile s'allumait de toutes parts. Hobbes, défenseur de la majesté souveraine, encourut la haine des démocrates. Alors, voyant les lois foulées aux pieds, le trône chancelant, les hommes entraînés comme par un vertige général aux actions les plus atroces, il pensa que la nature humaine était mauvaise et de là toute sa fable ou son histoire de l'état de nature. Les circonstances firent sa philosophie. Il prit quelques accidents momentanés pour les règles invariables de la nature et il devint l'agresseur de l'humanité et l'apologiste de la tyrannie. Diderot, l'encyclopédie. Hobbes est un monument de la philosophie politique. C'est notamment le premier à avoir construit sa pensée à partir d'une réflexion sur l'état de nature, c'est-à-dire un état qui est surtout une fiction théorique, même s'il peut s'apparenter à certaines situations réelles comme la guerre civile ou les relations entre les États, qui précéderait l'établissement de toute société et de tout pouvoir central. Avant Hobbes, l'approche dominante, héritée d'Aristote, consistait à considérer que l'homme est par nature un animal politique, c'est-à-dire qu'il lui est naturel de vivre en société. La question de savoir pourquoi les êtres humains s'assemblent et forment des organisations sociales ne se pose alors pas plus que celle de savoir pourquoi les abeilles décident de former une ruche. Pour Hobbes, au contraire, les êtres humains ne sont pas naturellement sociaux, et c'est pourquoi sa philosophie politique devra en premier lieu répondre à la question de savoir comment et pourquoi les êtres humains sortent d'un premier état de nature asocial pour ensuite s'organiser en société et se soumettre à l'autorité d'un État. La pensée politique de Hobbes est d'autant plus passionnante qu'elle est radicale et antipathique. Et quoique ce ne soit pas vraiment le sujet de ce chapitre, il serait dommage de ne pas faire un petit voyage de l'état de nature à l'état civil. L'état de nature est donc pour Hobbes un état où domine la peur et la méfiance de chacun envers tous les autres. Vulnérable car potentiellement exposé à la violence d'autrui, chacun est prêt pour s'en prémunir à user de n'importe quel moyen, et notamment de cette même violence. En outre, chacun peut présumer qu'autrui fera le même raisonnement, ce qui le justifie d'autant plus à redouter sa violence et éventuellement à l'exercer en prévention. Cette situation est souvent comparée à celle du dilemme du prisonnier en théorie des jeux. Deux prisonniers sont interrogés et peuvent chacun soit se taire, soit trahir l'autre. Si les deux se taisent, alors les deux écopent d'une peine légère, un an de prison. Si l'un trahit et l'autre se tait, alors celui qui a trahi sort libre et celui qui a été trahi écope d'une peine très lourde, 10 ans de prison. Si les deux trahissent en même temps, chacun écope d'une peine lourde, 5 ans de prison. La meilleure stratégie collective serait bien sûr de se taire, mais si je me tais, je prends le risque que l'autre me trahisse, ce qui me mettrait dans la pire des conditions, 10 ans de prison. Et l'autre a effectivement une forte incitation à le faire, il pourrait sortir libre. Dans ce cas, même si mon intention première n'était pas de trahir, il vaut mieux que je le trahisse par précaution au cas où il me trahirait. Et c'est ainsi que les deux, même en ayant l'intention première de se taire, sont amenés, par peur de la trahison de l'autre, à se trahir mutuellement. L'état de nature est fameusement décrit par Hobbes comme un état de guerre de tous contre tous. Ce n'est évidemment pas un état propice à la joie de vivre et à la franche rigolade. Chacun préférerait avoir la paix. Toutefois, offrir la paix sans garantie que les autres en feront autant revient à s'exposer davantage encore à leur violence. Ainsi, même si chacun veut que le combat cesse, personne ne veut prendre le risque de se désarmer en premier. De là, le seul moyen d'établir la paix serait de renoncer de façon collective et simultanée à l'exercice de la violence. Il ne suffit pas pour cela de se réunir autour d'une table et de passer un contrat. Il faut encore une autorité supérieure qui garantisse que ce contrat sera respecté, sans quoi il sera toujours plus avantageux pour chacun d'en violer les termes à son propre avantage. Et cette autorité supérieure ne peut offrir cette garantie qu'en inspirant elle-même la plus grande des craintes à chacun des contractants. Ainsi, pour Hobbes, la paix à laquelle chacun aspire dans l'état de nature ne peut être obtenue que si chacun, à la condition que les autres en fassent autant, se soumet à un souverain chargé d'assurer la sécurité de tous et disposant d'un pouvoir coercitif absolu, puissance terrifiante que Hobbes symbolise par un monstre biblique, le Léviathan. C'est le titre de son traité le plus célèbre, publié en 1651, et il faut avouer que ça en impose. La peur, comme tout amateur de Star Wars le sait, mène au côté obscur de la force et à défendre l'absolutisme. Et c'est tout à fait le cas de Hobbes. Il faut donc, selon lui, remettre au souverain un pouvoir absolu pour que la crainte qu'il inspire suffise à garantir la paix civile. En somme, mieux vaut l'empire qui exerce un pouvoir terrifiant mais assure au moins une certaine stabilité, plutôt que ces rebelles irresponsables qui veulent replonger la galaxie dans une guerre civile encore plus hasardeuse. Dans tous les cas, la peur reste centrale, dans l'état de nature comme dans l'état civil, mais la peur de la violence que chacun peut exercer sur chacun est ce qui entretient la guerre et l'instabilité dans l'état de nature, tandis que la peur d'un seul souverain au pouvoir absolu dans l'état civil permet au moins d'assurer la paix sur un temps long et laisse ainsi espérer une certaine prospérité. C'est tout de même préférable. Quitte à vivre avec la peur au ventre, autant que ce soit dans un état stable plutôt qu'au milieu d'une guerre civile. Méditez cela, rebelles scumbags. Il faudrait bien sûr préciser bien des points pour donner une image plus fidèle et convaincante de la pensée politique de Hobbes, qui n'était pas un seigneur noir des sites, n'exagérons rien. Mais je m'en tiendrai là car, à vrai dire, le texte que je voudrais évoquer dans ce chapitre ne relève pas directement de la philosophie politique. Nous allons revenir au point de départ de celle-ci, à savoir sa conception de la nature humaine. Comme je l'ai déjà mentionné, elle s'oppose radicalement à celle héritée de l'Antiquité, et je voudrais m'arrêter surtout sur sa conception du bonheur et de son rapport au désir. Dans les chapitres sur l'épicurisme et le stoïcisme, nous avons vu que le bonheur, ou l'eudaimonia des Grecs, était étroitement lié à l'idée de repos, d'absence de troubles, ou ataraxie. On pourrait parler d'une conception statique du bonheur. Le désir, au contraire, est dynamique. Il est source de troubles, d'agitation, et s'oppose donc à ce bonheur statique. Dans un passage du Gorgias de Platon, Socrate compare l'homme heureux à un homme possédant de nombreux tonneaux bien remplis et ne désirant y mettre rien de plus, tandis que le malheureux est comme un homme dont les tonneaux sont troués et qui doit sans cesse les remplir à nouveau pour compenser ce qui s'en échappe. Ces tonneaux remplis d'une part et percés de l'autre illustrent parfaitement d'un côté l'idée d'un bonheur statique, de l'autre la course sans fin des désirs qui nous condamnent au malheur, évoquant l'infernal tonneau des Danaïdes. Les Danaïdes, dans la mythologie grecque, sont condamnés aux enfers à remplir continuellement des jarres percées. Une sorte de bullshit job pour l'éternité. Belle idée de torture. Dans ce même dialogue, Platon met en scène, face à Socrate, un personnage singulier nommé Calliclès, qui est l'une des rares voix de l'Antiquité à s'opposer à cette conception statique du bonheur. Pour Calliclès, si cet homme au tonneau rempli était heureux, ne désirant plus rien, alors il faudrait dire que les cadavres et les pierres, qui ne désirent rien non plus, sont tout aussi heureux que lui. Calliclès considère comme absurde l'idée de ce bonheur de pierre. Pour lui, désirer toujours plus et réussir à réaliser ses désirs, jouir de tout sans entrave, voilà la vie heureuse. Le bonheur de Calliclès est dynamique et non statique. Il réside dans le remplissage des tonneaux et non dans le fait de les avoir remplis et de s'en satisfaire. Verser et reverser toujours plus, c'est là ce qui nous rendra heureux. Socrate rétorquait malignement qu'il faut alors qu'il y ait de bons gros trous dans les tonneaux pour que tout puisse s'en échapper à mesure que l'on verse, et qu'en somme, Calliclès parle, je cite, de la vie d'un pluvier qui mange et fiente en même temps. Merci pour l'image. Aux yeux de Platon et de l'immense majorité des philosophes de l'Antiquité, il ne fait aucun doute qu'un personnage comme Calliclès représente l'opposé de la sagesse. C'est un épouvantail philosophique, l'anti-Socrate par excellence. D'ailleurs, dans les dialogues de Platon, Calliclès est l'un des rares interlocuteurs de Socrate à ne jamais s'avouer vaincu par celui-ci, et Socrate le félicite à plusieurs reprises d'être cohérent et courageux dans sa position, assumant ses conséquences jusqu'au bout. En fait, ce personnage est probablement une pure invention de Platon. Deux millénaires plus tard, toutefois, certaines idées de cet épouvantail trouveront enfin un défenseur de bonne foi sous la plume de Hobbes qui osera, contre la vénérable tradition, remettre en cause cette conception purement statique du bonheur. Il est intéressant de noter que Hobbes est un matérialiste assumé, chose rare au XVIIe siècle, et qui ajoute pour ses contemporains à son caractère infréquentable. Et que son approche est purement descriptive. Il se borne donc à étudier l'être humain dans ce qu'il est matériellement. Quels mécanismes du corps rendent compte de sa cognition, de ses passions, de ses actions. En cela, la démarche de Hobbes s'inscrit tout à fait dans le mouvement de révolution scientifique qui traverse cette époque. Toutefois, ce n'est pas un expérimentateur et quoi qu'il se réclame d'une méthode mathématique, plus exactement il se réclame de la méthode axiomatique d'Euclide, intitulant l'un de ses ouvrages « Éléments de la loi naturelle et politique » en référence aux éléments d'Euclide, il faut avouer que son propos sur la physiologie humaine est souvent assez fantaisiste et peu rigoureux. Mais peu importe, les conséquences qu'il en tire quant à la psychologie ont au moins le mérite d'être intéressantes et d'avoir une certaine vraisemblance. Pour Hobbes, l'être humain est avant tout mu par le désir et la crainte, ou l'appétit et l'aversion. Contenter un désir procure ce qu'il appelle une réjouissance, et le bonheur ou félicité ne sera rien de plus que la réjouissance continuelle, obtenue donc en allant toujours de désir en désir. Hobbes écrit « Vu que toute réjouissance est appétit et que l'appétit présuppose une fin plus éloignée, il ne saurait y avoir aucun contentement sinon dans le fait de toujours avancer. Et par conséquent, nous n'avons pas à nous émerveiller de ce que, à mesure que les hommes obtiennent plus de richesses, d'honneur ou d'autres puissances, leur appétit s'accroisse aussi continuellement de plus en plus. Et les hommes se plaignent à juste titre comme étant d'un grand chagrin le fait de ne pas savoir quoi faire. Par conséquent, la félicité, par quoi nous voulons dire la réjouissance continuelle, ne consiste pas dans le fait d'avoir réussi, mais dans le fait de réussir. » Autrement dit, il ne s'agit pas d'avoir rempli ces tonneaux, mais de les remplir. Notez que Hobbes ne porte pas un jugement moral sur cette tendance insatiable de l'être humain. Il ne fait que la constater, la déduire de mécanismes physiologiques et psychologiques qu'il a précédemment décrits dans son ouvrage. Notre nature, selon lui, est donc telle que, quoi que nous ayons déjà obtenu, nous ne serons heureux qu'en obtenant encore davantage. Et Hobbes ne présente cela ni comme un bien, ni comme un mal, c'est un fait. La tendance que Hobbes décrit est joliment illustrée dans ce qu'on appelle aujourd'hui en psychologie le tapis roulant hédonique. Même lorsqu'un événement heureux augmente brusquement notre niveau de satisfaction, nous avons tendance à revenir, après quelque temps, à notre degré de satisfaction ordinaire. En somme, c'est s'enrichir qui rend heureux, plutôt qu'être riche. Et notez que cela marche aussi dans l'autre sens, un événement malheureux ne diminue que temporairement notre satisfaction qui remontera bientôt jusqu'à son niveau ordinaire. Pour le dire encore autrement, la dynamique de l'amélioration ou de la dégradation détermine notre bonheur ou malheur davantage que l'état où nous sommes arrivés en fin de compte. Cette image de la course sous-jacente à l'idée de tapis roulant hédonique est des plus éloquentes pour illustrer notre condition. Et Hobbes lui-même filera longuement cette métaphore dans l'un des passages les plus singuliers des éléments de la loi naturelle et politique. Une page curieusement poétique d'un ouvrage qui ne l'est guère par ailleurs, résumant avec force toute sa pensée quant aux passions humaines. Hobbes écrit « La comparaison de la vie de l'homme avec une course, bien qu'elle ne tienne pas en tout point, tient néanmoins si bien pour notre présent dessein que nous pouvons, grâce à elle, à la fois voir et nous rappeler presque toutes les passions mentionnées auparavant. Mais cette course, nous devons supposer qu'elle n'a d'autre but ni d'autre laurier que le fait de chercher à être le plus en avant. Et en cette course, s'efforcer, c'est appétit, se relâcher, c'est sensualité, considérer ceux qui sont derrière, c'est gloire, considérer ceux qui sont devant, c'est humilité. Perdre du terrain en regardant en arrière, vaine gloire. Être retenu, haine. Retourner en arrière, repentir. Avoir du souffle, espoir. Être épuisé, désespoir. Tâcher d'atteindre celui qui est devant, émulation. Chuter sur l'imprévu, c'est disposition à pleurer. Voir un autre chuter, disposition à rire. Voir quelqu'un être dépassé lorsque nous ne le voudrions pas, c'est pitié. Voir quelqu'un dépassé lorsque nous ne le voudrions pas, c'est indignation. Se serrer à un autre, c'est amour. Porter celui que l'on serre ainsi, c'est charité. Se blesser par précipitation, c'est honte. Continuellement être dépassé, c'est misère. Continuellement dépasser celui qui est devant, c'est félicité. Et abandonner la course, c'est mourir. Thomas Hobbes, Éléments de la loi naturelle et politique, chapitre 9. Aussi longtemps que l'on est en vie, et donc en course, il s'agit seulement de dépasser celui qui nous précède et ne pas être dépassé par celui qui nous suit. On ne saurait évoquer de façon plus éloquente cette conception dynamique du bonheur dont Hobbes se fait ici le défenseur. Et il est intéressant de noter que cette dynamique est seulement relative aux autres coureurs. C'est en les dépassant ou en étant dépassés par eux que nous sommes heureux ou malheureux. Les êtres humains, selon Hobbes, sont donc fondamentalement en compétition. Non pas parce qu'ils visent un même but qui serait au bout de la course, il n'y a pas de sens à gagner la course ni même à être premier, mais seulement parce que les mécanismes de leur passion poussent chacun à vouloir dépasser les autres et à craindre d'en être dépassé, si absurde que soit la course. Notez que sa philosophie politique, et en particulier ses réflexions sur l'état de nature, devient plus claire dès lors que l'on comprend qu'elle s'applique à des êtres humains ainsi conçus. J'ose espérer que nous ne leur ressemblons pas tant que cela, car même si les passages sur la pitié, l'amour et la charité témoignent du fait que cette course n'est pas si impitoyable et n'exclut pas la possibilité de l'entraide et la coopération, l'ensemble ne dresse tout de même pas un portrait de l'humanité des plus flatteurs. Voir un autre chuter, disposition à rire, voilà qui semble assez cruel. De fait, aux yeux de Hobbes, je cite, « la passion du rire n'est rien d'autre qu'une gloire soudaine résultant de la conception soudaine de quelque prééminence en nous-mêmes en comparaison des infirmités des autres ou de nos infirmités passées. » Hobbes ne semblait pas vraiment goûter toutes les subtilités de l'humour anglais. En somme, l'être humain que décrit Hobbes reste fondamentalement égoïste, jeté dans une course perpétuelle sans autre but que dépasser les autres et ne pas en être dépassé, jusqu'à l'abandon qui signifie la mort. Sur ce, pour vous remonter le moral, vous pouvez poser ce livre et aller faire un jogging. Quelques livres pour aller plus loin. Thomas Hobbes, Léviathan, choix de chapitre et présentation par Philippe Crignon, Flammarion, collection GF, 2017. Le Léviathan est un texte essentiel en philosophie politique, mais c'est aussi un pavé effrayant. Cette petite édition présente l'avantage de réduire la dimension du monstre à quelques chapitres importants et de la sortir d'une présentation et d'un dossier éclairant les principales conceptions de la philosophie politique avant et après Hobbes. Cela en fait un parfait ouvrage pour s'initier à la pensée de Hobbes et à l'histoire de la philosophie politique. Thomas Hobbes, Éléments de la loi naturelle et politique, le livre de poche, 2003. Rédigé 10 ans avant le Léviathan, ce texte présente déjà sous une forme plus ramassée l'essentiel de la philosophie politique de Hobbes. L'ouvrage est divisé en 2 parties de longueur à peu près égale. La seconde contient sa philosophie politique à proprement parler, tandis que la première est consacrée à des questions de biologie et de psychologie. Hobbes examine ce que sont et font les êtres humains. Le passage de la course est justement extrait de ce petit traité de la nature humaine, qui est d'ailleurs souvent édité seul sous ce titre. Bien que du point de vue scientifique, le propos soit souvent assez hasardeux, son approche radicalement matérialiste et détachée de tout jugement moral rend la lecture étrangement plaisante. Hobbes ne prend pas de pincettes. En témoigne ce passage délicieux sur l'origine du plaisir des odeurs. Les mêmes odeurs, lorsqu'elles semblent provenir des autres alors qu'elles proviennent de nous-mêmes, déplaisent. Mais lorsque nous pensons qu'elles proviennent de nous-mêmes alors qu'elles viennent des autres, elles ne déplaisent pas. Par conséquent, le déplaisir dans ce cas est une conception du préjudice venant de quelque chose de malsain.